Bonsoir à toutes et à tous. Trois nouveaux départements doivent basculer en zone rouge, le Rhône, la Nièvre et l'Aube. Nombre d'hôpitaux sont saturés et sont contraints de passer en médecine dégradée. Et malheureusement, la situation va continuer à se détériorer dans les jours, les semaines à venir. D'où cette question. Les mesures de freinage sont-elles suffisantes? Était-ce une erreur de ne pas avoir reconfiné le pays le 29 janvier dernier, quand tout le monde s'y attendait? Question, va-t-il falloir maintenant prendre des mesures beaucoup plus drastiques pour éviter une explosion à l'hôpital, comme par exemple la fermeture des écoles pendant plusieurs semaines? Et les Français y seraient-ils prêts? C'est le sujet de cette émission de Ce C'est dans l'air, intitulée ce soir « Covid, droit dans le mur » avec un point d'interrogation. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Patrick Pelloux. Vous êtes médecin urgentiste au SAMU de Paris, président de l'Association des médecins urgentistes et auteur de Urgence de vivre. C'est aux éditions du Cherche Midi. Soisy Kemener, vous êtes rédactrice en chef du service politique de Marianne, où vous avez signé ce papier intitulé « Jupiter redescend sur Terre ». En direct de Genève, en Suisse, on retrouve le professeur Antoine Flahaut. Vous êtes épidémiologiste, directeur de l'Institut de santé globale et auteur de « Covid, le bal masqué », c'est aux éditions d'UNO. Et enfin, le professeur Bertrand Guidet, vous êtes chef du service de médecine intensive et réanimation à l'hôpital Saint-Antoine de Paris. À ce titre, vous avez d'ailleurs rencontré la semaine dernière Emmanuel Macron avec d'autres confrères réanimateurs. Vous nous raconterez. Patrick Pelloux, on commence avec vous. Ce matin, le Parisien rapportait que le SAMU de Paris, le SAMU d'Île-de-France, avait noté une hausse de 65% des transports de cas Covid en 10 jours.
C'est exact. C'est exact. C'est-à-dire qu'en fait, depuis à peu près 6-7 jours, en fait, on a une augmentation des cas Covid, ça ne fait aucun doute. On n'est pas du tout dans la même configuration que l'année dernière. C'est ça qui nous surprend beaucoup. Les cas sont beaucoup plus jeunes. Les cas touchent absolument tout le département. D'accord. Alors qu'au mois de mars de l'année dernière, ça touchait surtout la Seine-Saint-Denis et l'Est de l'Île-de-France. Ce qui nous surprend aussi beaucoup, hein, ça c'est sûr, c'est qu'en en fait, on a l'impression que ça recommence. Et ça, je dois vous avouer que ça ruine un peu le moral des soignants.
Concrètement, ce sont des cadras, des quinquas qui se croyaient finalement à l'abri de devoir aller à l'hôpital et brutalement qui ont des difficultés à respirer.
Bien sûr.
Et qui appellent le SAMU.
Bien sûr.
Et
bien
dont
sûr,
certains.
C'est les difficultés respiratoires, c'est les douleurs thoraciques qui nous font craindre à chaque fois l'embolie pulmonaire, hein, puisque c'est un des risques majeurs de la Covid-19. Et ils nous appellent. Et ce qu'on essaye de faire, parce qu'on a appris à soigner cette maladie, en fait, on les dirige directement, soit sur les unités comme celle de Bertrand Guidet. De soins intensifs de manière à pulser beaucoup d'oxygène et à freiner le plus longtemps possible ce qu'on appelle l'intubation, c'est-à-dire la pose d'un respirateur artificiel.
Certains passent directement de leur domicile à la réanimation, aux soins intensifs.
Oui, oui,
ils ne font pas la case hôpital
Non, la case hôpital, c'est la case des urgences. Et là, on essaye le plus possible, c'est le job du SAMU et qu'on essaye de faire le mieux possible, même si on n'est pas parfait et si on est perfectible. On essaye de les mettre là où c'est le plus adapté pour eux. Et à l'heure actuelle, ce qu'on essaye de faire, c'est de les prendre très, très tôt, surtout quand il y a des baisses de la saturation. En gros, c'est facile pour les téléspectateurs. Si vous arrivez à compter jusqu'à 10 ou 20 sans vous arrêter, c'est que vous avez une bonne saturation. Ça, c'est un bon moyen très simple et très efficace de savoir...
Si on arrive à compter à 20 sans reprendre sa respiration, c'est qu'on est bon, on a de l'oxygénation.
Voilà, on sait, là je sais que vous avez 99-100% parce que vous finissez vos phrases, je finis les miennes. Si d'un coup vous êtes haletant, c'est là où vous appelez le SAMU et on dépêchera des équipes pour vous voir, pour mettre tout de suite de l'oxygène.
Professeur Bertrand Guidet, à Saint-Antoine par exemple, et plus généralement en Île-de-France, est-ce qu'on peut encore pousser les murs pour accueillir ces nouveaux malades ou non? On passe dans ce qu'on appelle la médecine dégradée, on les accueille, on les soigne, mais mal.
Alors, plusieurs éléments de réponse. Premier élément de réponse, on n'est pas du tout dans la même configuration que lors de la première vague, voire de la deuxième vague, parce qu'une grande partie de nos services était déjà plein. C'est-à-dire qu'on parlait de marée montante, on parlait de plateau haut. Donc, les services étaient déjà très, très pleins. Et sur ce fond d'occupation des services de réanimation, on a à faire face depuis quelques jours à une augmentation brutale des demandes d'hospitalisation. Et c'est ce qui nécessite effectivement de pousser les murs, comme vous le dites, c'est-à-dire de créer des nouveaux lits. Le problème, c'est que ces nouveaux lits, ça suppose d'avoir du matériel, mais globalement, on a ce qu'il faut maintenant, mais c'est surtout d'avoir du personnel compétent pour prendre en charge des malades instables qui relèvent des soins critiques. Et c'est là où c'est compliqué. Et donc, il faut aller chercher diverses solutions. D'une part, voir si on peut se faire aider par d'autres régions, mais c'est compliqué parce que beaucoup de régions sont maintenant atteintes. Deuxièmement, c'est pouvoir éventuellement transférer des malades dans d'autres régions, mais c'est très compliqué parce que maintenant, les familles s'y opposent beaucoup en disant « pourquoi est-ce qu'on transférerait les régions ?» Donc, c'est un point qu'il faudra peut-être détailler. Et puis après, c'est essayer d'intégrer du personnel qui n'est pas habitué à travailler en réanimation avec des programmes de formation un peu éclairs sur 48 heures et les intégrer dans l'équipe, donc de créer des espèces d'équipes mixtes. Et avec ces mesures, on est capable effectivement de pousser les murs, c'est-à-dire d'avoir des lits supplémentaires de soins critiques. Et donc, c'est ce qui nous est demandé avec une montée en charge par palier en fonction du nombre de malades à admettre. Donc là, on est actuellement au palier 3. Et on se prépare à pouvoir passer au palier 4, c'est-à-dire effectivement d'ouvrir des lits supplémentaires. Une des conséquences, c'est
la nécessité... Pourquoi palier 4, ouvrir des lits supplémentaires? Mais vous ne l'avez pas déjà fait, ça, d'ouvrir des lits supplémentaires? On peut encore en ouvrir? Il y a encore des pièces vides? Il y a encore des lits? Il y a encore du personnel?
Non, en fait, ce que l'on fait, c'est que on utilise des locaux, on requalifie, si vous voulez, des locaux qui n'étaient pas faits pour ça au départ, pour prendre en charge ce type de malade. Donc, effectivement, ce n'est pas du tout idéal. Ce n'est pas idéal en termes de locaux, ce n'est pas idéal en termes d'équipe. Ce qui fait la spécificité de la réanimation, c'est des gens qui ont l'habitude de travailler ensemble, des docteurs, des infirmières, des aides-soignantes, c'est une équipe. Et donc, c'est sûr que si vous créez une structure comme ça, en plus, en dehors des murs, eh bien, c'est dégradé. Ce n'est pas de la même qualité que quand vous faites de la réanimation dans les structures habituelles. Mais après, quand la demande augmente, eh bien, il faut essayer de répondre à la demande en augmentant l'offre. La question, c'est jusqu'où peut-on monter sans trop dégrader la qualité des soins? Et donc, nous, notre message, et c'est le message qu'on a passé à Emmanuel Macron, c'est qu'à un certain niveau, on ne pourra pas aller au-delà. On ne pourra pas aller au-delà. Et que donc, il faut prendre des mesures pour fermer le robinet d'entrée, c'est l'expression que nous avons utilisée, pour réduire la pression sur les services de réanimation.
Professeur Antoine Flahaut, alors, vous avez une vision plus détachée depuis, vous dézoomez depuis la Suisse. Comment d'abord, première question, comment expliquer que cette brutale dégradation, cette brutale arrivée des malades à l'hôpital dont vient de parler le professeur Bertrand Guidet? Et puis deuxième chose, comment appréciez-vous la situation en France? Nous sommes à 33 000 contaminations quotidiennes en moyenne. L'ancien directeur de la générale de la santé, William Dabb, a dit ce matin que l'épidémie était, je cite, « hors de contrôle », selon lui.
Alors, oui, une épidémie sous contrôle, c'est lorsque le taux de reproduction est inférieur à 1. Le taux de reproduction, vous savez, c'est le nombre de patients que l'on infecte soi-même quand on est infecté. En fait, le taux de reproduction en France est au-dessus de 1, il est aux alentours de 1,10, et en région parisienne à 1,15. Ce n'est pas énorme au sens
où... Pour mémoire, il était à 3 lors de la première vague du printemps dernier.
Voilà, parce que tous les gestes barrières, toutes les mesures de confinement partiel que sont le couvre-feu, la fermeture des bars, etc., tout cela, heureusement, porte ses fruits, réduit considérablement la pression. On aurait sinon 3 ou des valeurs peut-être même supérieures à 3 parce que les nouveaux variants tirent encore plus vers le haut le taux de reproduction. Donc, malgré toutes ces mesures, et qui sont pourtant des mesures extrêmement fortes, ce taux dépasse la valeur de 1. Et en effet, c'est une croissance exponentielle qui est hors de contrôle avec les mesures actuelles. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est propre à la France ou qui est propre à la région parisienne. Déjà, en Europe centrale, la pression est extrêmement forte. La vague est extrêmement forte en Hongrie, en Pologne, en Bulgarie, en République tchèque. Heureusement, la République tchèque est en train d'arriver à son pic. Les Balkans également et l'Europe de la Méditerranée, l'Italie, connaissent également une vague très importante, pour certains, une vague qui est plus importante que la deuxième vague.
D'accord.
Mais en Italie aussi, il semble que le pic soit très proche.
Alors,
peut-être
pour revenir,
atteint cette semaine.
Pour revenir en France, Sozzi Kemener, quand on entend ce que décrivaient à l'instant le professeur Guidet et Patrick Pelloux, est-ce que le gouvernement ne s'interroge pas sur la pertinence de ces mesures ? Sondage Elabe, d'ailleurs, les Français sont sévères vis-à-vis de ces mesures. 73% des Français les jugent non efficaces et 72% des Français qui vivent dans les départements où ces mesures sont imposées les jugent pas faciles à comprendre.
Oui, alors il y a eu nettement un changement de discours. Alors pour l'instant, en off, c'est-à-dire qu'on entend certains ministres qui commencent à dire qu'on va sans doute être obligé d'aller vers des mesures supplémentaires. Ce n'est pas encore dit officiellement, même si Jean Castex, qui se déplace énormément dans les hôpitaux, pourquoi il se déplace énormément ? Parce qu'ils ont peur d'une révolte des soignants, tout simplement. Hein. C'est des choses qui inquiètent beaucoup le monde politique, même si on peut considérer qu'il y a un paradoxe entre les mesures assez peu compréhensibles qui ont été prises la semaine dernière et cette inquiétude, mais qui est réelle. Et donc, Jean Castex, en déplacement à Melun aujourd'hui, a juste dit « nous pourrions être amenés à durcir ». On est encore dans une phrase qui n'est pas d'une évidence absolue. Il n'est pas en train de dire « on va prendre des décisions très vite, tout de suite ». Mais c'est vrai que les politiques commencent à s'interroger. En début de semaine, le sujet politique, c'était le cafouillage, mais de communication, qui finalement paraît un peu dérisoire au regard de l'urgence sanitaire dont on parle aujourd'hui. Mais donc, là, vous savez, les séquences politiques, ça dure 2 jours, et puis après, on passe à autre chose. Et là, enfin, hélas ou pas, comme on veut, mais en tout cas, là, aujourd'hui, la question, c'est combien de temps on tient. Il y a énormément d'inquiétudes sur l'école, on en parlera tout à l'heure, mais effectivement, la question de savoir si les restrictions supplémentaires qui, pour l'instant, concernent des départements, d'autres départements, ne devraient pas d'abord concerner l'Île-de-France.
Alors, justement, faut-il reconfiner ? Faut-il avancer les vacances de Pâques ? Faut-il fermer les écoles ? Toutes ces options sont sur la table, explique le gouvernement, face à une situation sanitaire qui se tend notamment dans les Hauts-de-France, dans l'Île-de-France dont on vient de parler, mais aussi en Rhône-Alpes où de nouvelles mesures de freinage sont attendues. Vous voyez ce sujet de Magali Lacroze et Christophe Roquet.
À l'hôpital de Melun cet après-midi, l'accueil du Premier ministre vaut tous les discours d'inquiétude. Et voilà qu'apparaissent face à lui une foule de soignants rassemblés, inquiets, tous suspendus aux mesures gouvernementales qui ne freinent pas cette troisième vague de la pandémie dans les services de réanimation d'Île-de-France, occupés à plus de 118%. Une situation grave, reconnaît Jean Castex au cours de sa visite.
Il y a un point sur lequel je souhaite insister. Que je vois déplacement après déplacement et que j'ai constaté encore cet après-midi à Melun, c'est le nombre de patients de plus en plus jeunes, qui sont admis dans des situations très graves dans les services de réanimation. Preuve que ce variant anglais, dont on savait qu'il était déjà plus contagieux, touche toute la population.
Une prise de conscience politique ? Alors que 16 départements expérimentent depuis une semaine des mesures de restriction sanitaire, alors que les scientifiques alertent et répètent dans les médias qu'elles ne suffiront pas.
On devra rapidement, et si rien n'est fait, trier les patients. Ce que nous n'avons pas fait au printemps dernier.
Ça va être très compliqué, parce que quoi qu'on fasse, de toute façon, les contaminés d'aujourd'hui auront besoin d'hospitalisation et de réanimation à partir de dans 10 jours, en moyenne. Et cela, pour ce qui est des malades de réanimation, pendant environ 15 jours pour ceux qui ne sont pas intubés, ventilés mécaniquement, et plus de 3 semaines pour les autres. Donc, de toute façon, le prochain mois va être infernal.
L'exécutif n'en fait-il pas assez pour enrayer la pandémie ? Des scientifiques à l'opposition politique, le gouvernement est sous le feu des critiques. Quelques heures avant la conférence de presse hebdomadaire du jeudi, la question des contaminations à l'école refait surface.
Ce que je propose, c'est qu'on avance de 15 jours les vacances scolaires. Vous savez que les vacances scolaires sont prévues le 17 avril. On pourrait les avancer de 2 semaines, les mettre le 2 avril, de façon à vraiment donner un vrai coup d'arrêt à la pandémie. Il faut qu'on la freine.
Hier soir, c'était au ministre de la Santé de répondre aux questions des quelques députés présents dans l'hémicycle sur la stratégie gouvernementale, un an après le premier confinement.
S'exprimer ainsi jeudi dans le Parisien. Va-t-on rejouer au foot ou pas ? Pile ou face, ça dépend de la pièce, de l'humeur du président, de son sentiment. Est-ce que le fleuriste vendra ses fleurs ? Pile ou face ? Les cours à l'université, dans les lycées, pile ou face ?
Un an après le début de cette pandémie, les Français ont le sentiment d'un gouvernement d'amateurs qui fait du bricolage à la petite semaine.
Moi, je suis ici devant vous pour qu'on puisse discuter ensemble des solutions, des propositions que vous avez à faire. Si votre proposition, alors que nous connaissons une troisième vague, c'est de rouvrir les commerces et de multiplier les lits de réanimation pour mieux les remplir, et tant pis pour les victimes, eh bien écoutez, nous ne serons définitivement pas d'accord.
Défendre les choix gouvernementaux pendant que le président, à la télévision grecque, reconnaît que la France et l'Europe ont moins bien géré la stratégie vaccinale que les Américains. Un début d'autocritique.
On n'a pas été assez vite, assez fort là-dessus. C'est tout à fait vrai. Et on a pensé que le vaccin mettrait du temps à décoller. Je vous le dis très sincèrement, tout le monde, les experts eux-mêmes d'ailleurs, disaient « Jamais dans l'histoire de l'humanité, on a mis moins d'un an pour faire un vaccin. » Formidable réussite. Et donc, là-dessus, on a sans doute, en quelque sorte, moins rêvé aux étoiles que certains autres. Et je pense que ça doit être une leçon pour nous-mêmes. On a eu tort de manquer d'ambition, j'allais dire de folie. Oui, de dire « c'est possible et on y va ».
Dans l'esprit du président, les États-Unis, Israël et peut-être demain la Grande-Bretagne, ces pays qui ont rêvé aux étoiles, retrouveront sans doute plus vite la vie d'avant, plus vite que nous.
Professeur Antoine Flao, cette question de Régis qui nous regarde depuis le Jura, en annonçant régulièrement des jours meilleurs et en dédramatisant, Emmanuel Macron n'a-t-il pas provoqué un relâchement chez les Français ? C'est vrai qu'en France, non seulement on ne dramatise pas, mais les mesures qui ont été prises sont assez légères comparées à ce qui se fait en Belgique, où on a fermé les écoles pendant 4 semaines, à ce qui s'est fait en Allemagne ou en Grande-Bretagne.
Non, je ne pense pas que les mesures en France soient des mesures légères. Je crois que le problème est que le 1er décembre, à l'issue du deuxième confinement, lorsque le président Macron avait proposé une cible à atteindre qui était de moins de 5 000 cas par jour en France, la France ne les a pas atteints. Elle était à 10 000 cas. Et à ce moment-là, il aurait fallu probablement se poser la question. Qu'est-ce que l'on peut faire pour que ça aille qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour que ça aille à 5 000 cas? Et à ce moment-là, peut-être que si on avait fermé les écoles 15 jours avant Noël, on aurait bénéficié d'un mois d'interruption scolaire. Et peut-être que là, on serait arrivé au moins des 5 000 cas et on aurait peut-être pu reprendre totalement la situation en main, un peu comme les Britanniques aujourd'hui sont en train de la reprendre, ou les Portugais ou les Irlandais. Ça n'a pas été fait. Et en fait, ce qui a été fait, c'était qu'on a parié sur le fait que le couvre-feu, les mesures fortes, hein, vous savez, toute cette interruption de la vie sociale des adultes, que ce soit culturelle, sportive, le couvre-feu, le télétravail, on ne peut pas dire que ce soit des mesures légères, c'est des mesures extrêmement fortes. Au contraire, elles auraient pu arriver lentement, et c'était un peu cela le pari, je pense, avec un R descendu à le fameux taux de reproduction, descendu à quelque chose comme 0,9, en un mois, on aurait été à 5 000 cas. Et on pouvait parier, ce n'était pas du tout absurde de parier sur cela, mais les nouveaux variants ont changé la donne. Les nouveaux variants ont empêché absolument que l'on arrive à un R qui baisse durablement et qui permette à l'incidence de baisser durablement. Ce qui fait que quand on est arrivé au cours du mois de janvier, toujours avec plus de 10 000 cas par jour en France, le Conseil scientifique français a fait une proposition. Il a dit qu'il fallait désormais faire un confinement strict. Et je pense que là aussi, il y a une opportunité qui a été perdue.
Ah oui.
Parce que c'était à ce moment-là encore possible. Voilà, possible d'une façon moins lourde, moins longue, peut-être même sans fermer les écoles, puisque en France, la question des écoles est devenue trop un tabou. On peut tout à fait comprendre qu'il ne faut pas interrompre la scolarité. Mais en faire un tabou a nuit sans doute à la sécurisation des écoles ouvertes.
Bah justement, Soizic Kemener, est-ce que la fermeture des écoles, c'est toujours un tabou? La Belgique, par exemple, à partir de lundi, va fermer toutes ses écoles pendant 4 semaines.
Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est une exception française qui est revendiquée par le gouvernement depuis le début. On sait qu'on a eu beaucoup de difficultés dans la gestion de cette épidémie, masques, etc. Et c'est vrai que c'était la fierté d'avoir, Emmanuel Macron le répète souvent, les écoles réouvertes à partir du 11 mai. Et depuis, finalement, les enfants ont pu aller à l'école à peu près normalement, même s'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a quand même des restrictions à l'école. C'est-à-dire que, par exemple, les lycées sont en demi-jauge, tous les lycées, depuis la semaine dernière. C'est quand même considérable le nombre de lycéens aujourd'hui qui doivent se réorganiser, qui n'ont pas une vie scolaire normale. Mais c'est vrai que là, le ton a changé depuis dimanche dernier.
Ah oui.
Depuis qu'on a commencé à entendre de la part de scientifiques que finalement, quand on avait un enfant qui était au collège et au lycée, alors c'est peut-être que c'était des chiffres qui circulaient auparavant, mais on a commencé à les écouter. Pourquoi ? Parce que les Français ont commencé à avoir des enfants qui pouvaient être malades et puis des adultes contaminés. Donc, comme il y a plus de contamination, obligatoirement, de toute façon, il y a plus de cas qui reviennent.
Avoir un collégien à la maison, voilà. C'est 30% de chances de tomber malade, dit Arnaud Fontanet.
Exactement. Et donc, ça a commencé à infuser dans le milieu politique et ils se sont demandé si finalement, s'il ne fallait pas des mesures de freinage, si à un moment, il ne faudrait pas s'affranchir du tabou dont parlait le professeur à l'instant et penser aux écoles. Donc ça, c'est revenu et c'est pour ça que
Valérie... Donc ça n'est plus un consensus au sein du gouvernement. On avait l'impression que jusqu'à présent, tout le monde se disait bravo, on ne ferme pas les écoles. Maintenant, il y a des ministres qui plaident pour une fermeture des écoles.
Alors, ils ne plaident pas encore pour une fermeture des écoles, mais ils s'interrogent. Auparavant, l'interrogation était interdite. C'était une réussite française pour plein de raisons, pour des raisons sociales, économiques. Enfin, il y a des enfants qui ne mangent qu'à la cantine.
Mais on avait réussi
les écoles. Réussi ça, une fierté française. Et maintenant, on commence à entendre un petit peu, on ne va peut-être pas avoir le choix. Et d'ailleurs, ce n'est pas hasard, si Valérie Pécresse parle, alors elle est présidente de la région Île-de-France, elle est aussi en contact avec des membres du gouvernement, avec énormément d'élus. Donc ce qu'elle dit, c'est aussi le reflet de ce qu'est le débat politique. Et vous aurez noté que d'habitude, quand quelqu'un de l'opposition fait ce genre de proposition, très vite, il y a un tacle de la part du gouvernement qui dit non, pas du tout. Ah oui. Et là, quand vous écoutez Gabriel Attal ce matin, a dit qu'on pouvait entendre cette proposition. Il n'a pas dit qu'il la reprenait, mais quelque part, ils sont en train de se dire peut-être qu'à un moment, on y arrivera, mais la décision n'est absolument pas prise au moment où on parle.
Patrick Pelloux, je me souviens que jusqu'à présent, vous disiez non, il faut garder les écoles ouvertes coûte que coûte. Est-ce que votre situation a évolué ?
Non.
Parce qu'il y a le mur qui est devant nous, il y a ces malades qu'on ne pourra plus accueillir dans les services de réanimation des hôpitaux parisiens.
On ne fait que gérer la crise hospitalière. C'est-à-dire que là, notre problématique, c'est de ne faire que gérer la crise de l'hôpital. Donc on risque à nouveau de bloquer la société pour gérer juste un problème qui est récurrent depuis des dizaines d'années où on dit qu'on n'a pas donné le capacitaire, c'est-à-dire le nombre de lits nécessaires, notamment pour les lits de réanimation médicale. Bon, on met ça de côté. Parce que maintenant,
on est face au problème.
On est face au problème. C'est-à-dire qu'on peut après faire des tas d'incantations, mais en fait, c'est prêcher dans le désert, là. Donc, d'un coup, soyons concrets. Je pense que, il faut qu'il y ait vraiment à nouveau l'unité du pays. Ça ne sert pas à grand-chose.
Ça veut dire quoi, l'unité du pays ? Ça veut dire accepter qu'on transfère des malades ?
Oui.
Davantage ?
Oui, oui. On est prêt.
On ne donne plus le choix ?
Il faut donner le choix parce que c'est quelque chose d'éthique. Et comme disait fort justement Bertrand Guidet, c'est très difficile pour les familles. D'un coup, vous leur dites, votre malade qui est hospitalisé à l'hôpital Cochin à Paris, on va l'envoyer à Bordeaux-Toulouse. Si ce n'est pas accompagné avec la famille, c'est quand même problématique. Et puis, je ne sais pas, même nous autour de la table, si on accepterait. D'accord ? Donc, il faut être honnête. Le problème, c'est qu'il faut réfléchir à d'autres choses. Par exemple, moi, ça fait longtemps que je le dis, vous avez un hôpital qui est construit quasiment flambant neuf, qui avait été refait avant sa fermeture, qui est opérationnel, c'est l'hôpital du Val-de-Grâce. Donc d'un coup, pourquoi on ne développe pas, alors comme ça a été dit tout à l'heure, on a la possibilité de pousser les murs. Je ne suis pas d'accord avec le discours de dire on va trier les malades parce que ça fait peur à la population et ce n'est pas ça. On va appliquer ce qu'on a toujours appliqué, ce qu'on applique depuis toujours, sur le bénéfice-risque de mettre des patients en réanimation. Et en effet, il y a des patients, on sait que de toute façon, si on les met en réanimation, c'est prolongé. Et ça, c'est contraire à la loi, où on prolonge trop et on fait trop d'acharnement thérapeutique. Donc ça, on l'applique déjà. Le problème, c'est qu'on va avoir beaucoup de malades à mettre en réanimation. Et en effet, comme vous disiez, on le voit au niveau des SAMU, qui est le principal phare, le principal thermomètre qui voit véritablement l'évolution. Ça, je vous le dis, au niveau des SAMU de l'Île-de-France, ça monte en puissance. On va le retrouver dans les réanimations. Donc, on a peut-être un délai là pour, en effet, comme ça a été dit par Bertrand Guidet, de réouvrir et de réajuster des lits de réanimation. Par exemple, l'une des idées qui est à l'assistance publique actuellement, c'est de faire qu'on n'ait plus qu'un plateau technique, ça ne va pas être facile, à la Pitié-Salpêtrière pour faire les coronarographies, c'est-à-dire pour soigner l'infarctus, et toutes les autres unités de cardiologie vont être transformées en unités Covid. Voilà, il y a des tas d'idées sur la table, mais il faut qu'on passe à la manœuvre tout de suite. Et en effet, je termine, juste, le problème qu'on a, c'est le personnel. Parce que le personnel, autant on veut servir, on veut être utile, on n'est pas fataliste, on veut se battre, mais on est vraiment à bout.
Professeur Guidet, face à la marée montante, face à ce personnel à l'hôpital de Montfermeil qui se met parfois en arrêt maladie parce qu'il est à bout, parce qu'il est à bout et qu'il sent qu'en plus, il n'est même plus soutenu par la population qui lui dit « Écoutez, il faut vivre, il faut bien vivre. » Ça veut dire quoi, un hôpital qui craque quand Karine Lacombe parle de trier les malades? Est-ce que ça veut dire que vous allez devoir vous poser des questions éthiques que vous ne vous êtes pas posées jusqu'à présent? Et de quel type seraient-elles, ces questions éthiques?
Alors, si, on s'en est déjà posé. Moi, j'ai écrit une tribune dans Le Monde pour poser ces questions. Je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est vrai que la première réponse, c'est d'augmenter l'offre de soins, de manière à pouvoir admettre plus de malades. Nous, notre démarche est d'essayer de mettre le bon malade dans la bonne structure, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de perte de chance pour les malades. Donc, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de malades qu'on ne va pas admettre en réanimation. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas les admettre, et pas parce qu'on ne peut pas les admettre, c'est parce qu'on estime qu'ils ne vont pas bénéficier des soins de la réanimation. Donc ça, il faut essayer de garder cette éthique générale de la bonne allocation des moyens pour le bon malade. Alors après, quand on est complètement dépassé, qu'est-ce que l'on peut faire? Ben, on peut, comme on l'a dit, pousser les murs, mais l'exercice a ses limites, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas aller au-delà. Donc, on ne peut pas aller au-delà. Comment on fait? Eh bien, l'exemple caricatural que je donnais, c'est imaginons que nous ayons à admettre 3 malades dans un service de réanimation. Il n'y a qu'un seul lit libre. Il n'y a pas de possibilité de le transférer ailleurs. Comment on fait? Eh bien, on va dire qu'un principe égalitaire, c'est ben, je ne vais pas juger le bien fondé de l'hospitalisation en réanimation pour les malades, et je vais faire un tirage au sort des 3 malades, où on va effectivement appliquer une démarche, on va dire, plus utilitariste. Et l'exemple caricatural que je donnais, c'est il y a une jeune femme de 35 ans, mère de 3 enfants, et il y a un monsieur de 85 ans. Et moi, je ne veux pas tirer au sort. C'est évident que s'il n'y a qu'un seul lit libre, eh bien, je vais admettre la jeune femme. Et donc, à un moment donné, si on est poussé dans ces extrêmes, c'est la raison pour laquelle nous demandons un confinement plus fort, eh bien, on sera obligé de faire ce type de choix équivalent d'un choix de Sophie.
Qui vous expose à des poursuites judiciaires, d'ailleurs, ce type de choix? On sait qu'il y a des familles qui attaquent les hôpitaux en disant justement, précisément, vous n'avez pas prodigué à mon père de 85 ans des soins de réanimation qui lui auraient permis de rester en vie.
Bien sûr.
Oui, alors après, sur les personnes âgées, moi c'est ma thématique de recherche, on a quand même des éléments forts pour penser que ce n'est pas raisonnable chez un certain nombre de personnes, surtout si elles sont fragiles, de les admettre en réanimation. On pense qu'on sait qu'elles ne vont pas bénéficier de la réanimation, ces personnes. On a malheureusement maintenant quand même pas mal de recul.
C'est trop lourd.
Pas mal de publications internationales qui montrent qu'il ne faut probablement pas admettre ces personnes en réanimation. Mais oui, la question c'est... en situation de crise extrême, comment on gère la priorisation d'accès dans ces structures, c'est-à-dire comment on gère la pénurie.
Soizic Kemener, alors, autre décision quand même qui a l'air de monter, c'est que le gouvernement qui entend sévir maintenant, et c'est vrai qu'on voit très peu de policiers regarder si on a une attestation et ce qu'on fait là. Et si, voilà. Gérald Darmanin a dit, alors il veut donc verbaliser les groupes de 6 personnes, je ne sais pas très bien comment il va s'y prendre. Est-ce que le gouvernement aussi craint par-dessus tout, il va y avoir le week-end de Pâques, des rassemblements familiaux? Ça va être très difficile à contrôler, ça. Et alors après, avec à la clé derrière, ce qu'on avait appelé l'effet Thanksgiving, c'est-à-dire que 2 semaines après que les gens se soient retrouvés en famille, un certain nombre se retrouvent à l'hôpital.
Et c'est pour ça que très tôt, c'était dès mardi dans Le Parisien, Jean Castex a appelé les Français à ne pas se regrouper, à expliquer que les regroupements, ce qui n'aurait pas d'exception pour le week-end de Pâques, puisque la question était de savoir s'il y allait y avoir une levée de l'interdiction kilométrique, comme ça avait été le cas, par exemple, pour Noël, pour que les Français puissent se retrouver. D'ailleurs, il y a une balance qui a été faite au gouvernement en disant Noël pour les Français, c'est plus important que Pâques, et ils ont décidé que Pâques serait fermé. Alors après, toute la difficulté du discours du gouvernement, c'est de dire responsabilisation des Français, donc c'est pour ça qu'on les laisse sortir dans le mi-confinement qu'on est en train de vivre, mais en même temps, on nous parle 2 jours plus tard, effectivement, du retour des amendes, alors en sachant que cette interdiction d'être à plus de 6 dans l'espace public, elle est présente hein, depuis le mois d'octobre, sauf que pour l'instant, il n'y avait pas eu de décision, en tout cas de demande de la part de Gérald Darmanin, d'être en train de faire des contraventions, de regarder sur la voie publique ce qui se passe, mais ça va être très très compliqué de faire les choses de façon correcte. Ça me donne un peu, ça rappelle un peu cette période où il avait été décidé de faire des contrôles sur le périphérique parisien à 18h05 alors que les gens étaient coincés dans des embouteillages depuis une heure. On risque de se retrouver un peu dans le même cas de figure.
Et puis avec une acceptabilité de ce type de mesures très basse.
Très
je cite François Ruffin, député La France Insoumise, à l'Assemblée nationale qui dit, l'Assemblée nationale, je n'obéirai plus, je ne reconnaîtrai plus votre autorité.
Non, c'est pas bien.
Ben oui, mais il y a un moment, le ras-le-bol, s'il lui dit ça, ça veut dire qu'il y a une bonne partie de la population aussi qui n'en peut plus.
Gardons-nous bien de juger le peuple français. Hein. Quand on a annoncé il y a un an, on va faire le confinement, tout le monde disait on va désobéir, ça va être à nouveau des manifestations. Ça a été faux, on a été obéissants. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu, puisque là vous dégainez les Pâques, quand il y a eu Noël, où le 1er janvier, on a dit les gens vont se contaminer. Non, c'est faux, au bout de 15 jours, 3 semaines, il n'y a pas eu de pic que tout le monde prédisait. Donc il faut faire confiance. Et je pense que justement les mesures qui avaient été prises, c'est parce que d'un coup, quelque part, le gouvernement s'est dit on responsabilise le peuple, ils vont obtempérer, ils vont le faire, bien sûr, on n'a jamais 100%, hélas. Et en fait, il ne faut pas, si vous voulez, tout mettre sur le dos des gens, parce qu'on en a tous assez et ras-le-bol. On fait attention, mais on en a vraiment ras-le-bol. D'accord ? Il faut juste voir qu'on est face à une épidémie absolument incroyable et que le tempo est donné par le virus. Et pour l'instant, on ne dépassera, on va y revenir, le virus que quand on aura un fort taux de vaccination. Et c'est là l'enjeu du truc. C'est ça l'enjeu du truc.
Professeur Antoine Flahault, juste parce que le chiffre vient de tomber au début de l'émission, j'ai dit qu'on était sur un rythme de 31 000 contaminations par jour. Sur les 24 dernières heures, on est à 46 000 contaminations, 45 000 exactement. Au vu de tout ce qu'on vient de dire, et avec le recul que vous avez, il est temps, d'un point de vue sanitaire, il est urgent de prendre des mesures supplémentaires ?
Alors vous savez, Boris Johnson a décidé de confiner un confinement strict, généralisé, avec la fermeture des écoles le 4 janvier dernier. Et ça a été après un mois, temps plein, si je puis dire, chaque jour de ce mois de décembre, le taux de reproduction était à 1,20. Était
au mois de janvier.
Donc de 1, tout le mois de décembre. Il a confiné le 4 janvier, lui.
D'accord.
Le 4 janvier, c'est le sommet de la vague. Le 4 janvier, le système de santé publique britannique dit « Si vous continuez comme ça pendant 3 semaines sans rien faire, nous ne pourrons plus traiter les Britanniques. » On n'est pas très loin de cela hein, quand on entend les propos de Karine Lacombe ou de Bertrand Guidet. On est en train d'arriver à la saturation et on voit bien que la méthode européenne jusqu'à présent est une méthode réactive qui fonctionne, qui est de dire « En dernier recours, pour sauvegarder le système de santé, eh bien, on appliquera un confinement et même, en tout dernier recours, on fermera les écoles. » Donc, on est un petit peu dans cette logique-là. On ne sait pas quand ça va arriver, mais si ça continue plusieurs jours comme ça, on finira par avoir probablement des prévisions alarmistes sur le système de santé et on confinera. Mais on reconfinera à nouveau. Ça avait été à 40 000 cas le 28 octobre. Ici, on sera peut-être à 50 000, c'est-à-dire toujours au sommet de la vague. On confine jamais de façon préventive en Europe. On confine toujours en dernier recours.
Bien sûr.
Juste un tout petit mot pour dire, si je peux me permettre juste, il y a une mesure que je n'arrive pas à comprendre personnellement. L'histoire des 6 personnes à l'extérieur. Je ne comprends pas très bien ce que l'on risque. Il n'y a pas de contamination à l'extérieur rapportée. On a 120 millions de cas rapportés dans le monde. Il n'y a pas de contamination rapportée à l'extérieur. Aucune, vraiment, n'est rapportée. Aucun cluster n'est rapporté. Donc, je veux bien qu'on empêche les gens de sortir, mais c'est le contraire qu'il faut délivrer comme message aujourd'hui. C'est qu'on peut sortir, on peut être dehors. Il faut juste maintenir la distance physique ou alors mettre un masque pour ne pas postillonner sur ses voisins. Mais enfin, je veux dire, dehors, il n'y a pas d'aérosol qui ne se dilue pas dans l'atmosphère immédiatement. Il n'y a pas de risque. Il faut promouvoir, au contraire, d'être dehors. C'est à l'intérieur que l'on se contamine. Donc si les gens s'agglutinent à l'intérieur parce qu'on ne pourra pas vérifier qu'ils ne sont pas plus de 6, ils se contamineront,
donc,
alors qu'à l'extérieur, ils risquent beaucoup moins.
Dedans avec les miens, dehors, point. Ce n'est pas forcément dehors citoyen. On peut être plus nombreux dehors, mais j'imagine que peut-être le Premier ministre pensait à ces images du carnaval de Marseille où les gens étaient sans masque, agglutinés. Et c'est probablement ce genre d'image auquel il faisait allusion. Alors, en tous les cas…
Oui, ils étaient plus de 6.
Voilà, ils étaient plus de 6, là, oui. En Ile-de-France, le taux d'occupation des lits de réanimation, on en a parlé, atteint les 118%. La Cour des comptes, d'ailleurs, pointe le manque de préparation des pouvoirs publics. Quelle est vraiment la situation des hôpitaux français ? Élément de réponse avec Paul-Rémy Barjavel et David Lemarchand.
Une chute de pression artérielle chez un patient positif au Covid-19 de plus de 70 ans. Les alertes comme celle-ci sont fréquentes dans ce service de réanimation de l'hôpital Bicêtre.
Nous sommes en train d'essayer de voir quelles sont les raisons de cette chute de pression artérielle. Et un des assistants du service est en train de faire une échocardiographie. Regardez si le cœur est responsable de cette chute.
Ici, on compte 15 lits de réanimation permanents, des chambres lourdement équipées en matériel. Un respirateur artificiel, des écrans qui surveillent les principales variables vitales du patient et ses fonctions respiratoires. Un hémodialyseur pour remplacer les reins parfois défaillants et une rangée de seringues électriques qui perfusent en intraveineuse, par exemple, des produits sédatifs.
Ça, c'est un patient très typique, hélas, de Covid, parce qu'il a, il est sévère, grave, et il nécessite cet ensemble de choses pour qu'on puisse le gérer de façon convenable, confortable, et en lui donnant toutes ses chances pour guérir.
En Île-de-France, le taux d'occupation des services de réanimation est de 118,6%. Un pourcentage calculé en fonction du nombre de lits disponibles avant l'épidémie de Covid-19. Depuis deux jours, le service de réanimation de l'hôpital Bicêtre augmente ses capacités. Il peut désormais accueillir 10 personnes de plus.
C'est ici le secteur donc, qu'on transforme depuis ce matin, depuis hier soir, en fait, en réanimation. C'est le secteur que nous avons normalement, qui est un secteur d'unité de science continue, et qui s'arme progressivement. Ça veut dire que ce sont des chambres qui sont des chambres qui ressemblent à ceux qu'on a en réanimation, mais qui ne sont pas complètement équipées, avec des respirateurs. Et donc, on est en train d'amener progressivement les respirateurs sophistiqués, grâce à un parc de respirateurs qu'on a dans l'hôpital, pour équiper ces chambres.
Des chambres éphémères équipées de respirateurs artificiels pour augmenter les capacités d'accueil de patients. En les comptant, le ministère de la Santé affiche 7406 lits de réanimation aujourd'hui, contre 5080 avant la crise. C'est moins que lors de la première vague, où l'on comptait plus de 10 000 lits. Moins aussi qu'en novembre dernier, avec 8 000 lits. Dans un rapport récent, la Cour des comptes salue la capacité de réaction des hôpitaux, tout en dénonçant l'impréparation des pouvoirs publics. L'institution préconise d'ailleurs d'augmenter fortement le nombre de lits permanents en réanimation. Bonne idée pour les réanimateurs, à condition d'avoir les médecins qui vont avec.
On ne peut pas augmenter des lits sans réfléchir sur les ressources humaines. Il va falloir doubler nos internes. Au lieu d'avoir 74 internes de médecine intensive réanimation, il va falloir plutôt viser les 150 pour répondre à une augmentation de lits jusqu'à 7500, ce qui va nous faire rentrer dans une norme européenne de nombre de lits par 100 000 habitants.
Manque de médecins, manque d'infirmières et d'infirmiers qualifiés aussi. Les personnels sont formés actuellement sur le tas, en 6 semaines, dans un service où les soins sont très techniques.
Il faut 6 mois, 1 an pour qu'un infirmier soit à l'aise, si je puis dire, en réanimation avec les situations d'urgence, sachant qu'il a l'appui de son équipe aussi autour de lui. Finalement, le diplôme, c'est le permis de conduire, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il sache conduire. Il faut vraiment exercer en fait sur le terrain pour pouvoir acquérir des compétences.
Il faut 5 infirmiers par lit de réanimation. Un poste clé donc, sans formation spécifique, ni réelle reconnaissance financière pour le moment.
Question de téléspectateur Patrick Peloux. Les soignants à la retraite sont-ils sollicités? Ça pose la question des renforts. Est-ce que vous en bénéficiez?
Alors, on n'est pas du tout dans la même situation que l'année dernière. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont venus nous renforcer, mais là, l'épidémie, elle est nationale. Donc d'un coup, l'année dernière, ils étaient venus d'autres régions parce qu'il n'y avait pas d'épidémie dans leur coin, donc ils sont venus. L'accueil a été plus ou moins bon, il faut le reconnaître. Il y a des personnels qui n'étaient pas très contents, à la fois de l'hébergement, et puis après, il y avait beaucoup de secteurs libéraux, des libéraux qui étaient venus renforcer l'hôpital public. Ils n'ont pas eu droit à la prime parce qu'ils n'étaient pas de l'hôpital public. Donc ça a été mal joué, ce qui fait que ça n'a pas donné envie de revenir renforcer là. Il y en a qui viennent quand même. Et en effet, par rapport à ceux qui ont pris leur retraite récemment, le problème, c'est l'état de connaissance. C'est-à-dire que les connaissances, elles évoluent très rapidement actuellement en médecine. Donc, il faut savoir qu'on peut venir renforcer ce que moi je fais. On peut aller renforcer dans des unités de soins continus sous l'encadrement des réanimateurs, d'accord, mais on ne peut pas lancer comme ça n'importe qui, n'importe quand, sur des lits de réanimation. C'est la même chose au niveau du SAMU. On a des renforts de retraités qui viennent répondre au téléphone, qui font ce qu'on appelle la permanence de soins, c'est-à-dire qui répondent à des avis et des simples conseils. Mais tout ce qui est réanimation et actes de SAMU, c'est confié aux urgentistes du SAMU.
Professeur Bertrand Guidet, est-ce que les patients que vous accueillez en réanimation ont des profils différents? Ils y restent plus longtemps parce qu'ils seraient plus jeunes? Non. Et d'ailleurs, psychologiquement, le fait d'avoir quelqu'un qu'à son âge, peut-être est-ce plus dur pour le personnel hospitalier qui s'identifie davantage à la personne qu'il soigne? Quel est le profil de ces patients que vous accueillez en réanimation?
Alors, effectivement, le profil a un peu changé. C'est lié, je pense, on l'espère, à des premiers effets de la vaccination chez les plus âgés. Et deuxièmement, sur le fait qu'on traite maintenant beaucoup plus en salle les malades avec des corticoïdes. Et donc, oui, le profil des malades a changé. Les malades sont plus jeunes. Pour vous donner un exemple, dans mon service, le plus jeune, il a 27 ans. Oh là là. Et le deuxième, il a 36 ans. Donc après, la majorité sont plutôt dans la tranche d'âge 50-65 ans.
Toujours beaucoup d'hommes et toujours ces comorbidités comme l'obésité, l'hypertension ou
Oui, mais pas toujours. Pas toujours. Oui, mais pas toujours. On a un malade qui était vraiment en pleine forme, qui avait une activité sportive, aucune comorbidité et qui fait une forme grave de la Covid. Donc on garde quand même un profil plutôt du surpoids, de l'hypertension, du diabète, etc. Mais il y a des malades qui n'ont pas d'antécédents, qui n'ont pas de comorbidité et qui font une forme sévère.
Professeur Antoine Flao, on voit bien comment ce variant anglais est venu perturber cette sortie de crise. En Inde, il y a un nouveau variant qui, je le décris, est qualifié de plus contagieux et plus dangereux et qui a développé un mécanisme qui lui permet d'échapper à l'immunité, qu'elle soit vaccinale ou acquise par la maladie. Est-ce qu'avec ce virus qui, on voit, s'adapte à nos stratégies, on peut craindre de nouveaux variants qui échapperaient totalement à l'immunité et qui s'attaqueraient non plus, j'allais dire, aux plus âgés, mais à toute la population, c'est-à-dire à une population plus jeune. Est-ce que ce sont des scénarios catastrophes qui, malheureusement, oui, il faut envisager pour la fin de cette année?
Je pense qu'on ne peut pas envisager tous les scénarios possibles et tous les scénarios catastrophes. On peut juste se dire que plus on laisse l'épidémie se développer, plus le virus circule, plus il se réplique et plus la probabilité que des variants émergent est grande. En Inde, en ce moment, l'épidémie redémarre, une vague redémarre, et c'est à cette occasion-là que l'on peut risquer d'avoir des nouveaux variants. Il faut aussi savoir que les nouveaux variants sont très souvent identifiés dans les endroits où on séquence massivement les virus, les identifications positives de virus. Et c'est très important, c'est coûteux, c'est long de séquencer et c'est extrêmement important. Donc il faut continuer cette surveillance pour pouvoir savoir simplement que des nouveaux variants émergent. Une fois que ces nouveaux variants émergent, la meilleure façon de s'en prémunir, c'est un contrôle strict aux frontières. Il faut vraiment que les gens qui reviennent aujourd'hui de n'importe quel pays hors de l'espace Schengen soient mise en quarantaine. C'est extrêmement important. Les Britanniques, qui commencent à arriver en ce moment en très forte décrue après leur confinement du mois de janvier et de février, aujourd'hui ferment et bouclent leurs frontières. En tout cas, ils ne les bouclent pas. On permet aux gens de revenir, mais ils sont mis en quarantaine de façon stricte et ils sont dépistés à ce moment-là pour ne pas que ces nouveaux variants puissent prendre empreinte sur le territoire.
Alors la France, on l'a dit, manque cruellement de bras dans les hôpitaux et dans les EHPAD. Du coup, le Conseil départemental des Alpes-Maritimes propose à une centaine de bénéficiaires du RSA une reconversion au métier d'aide-soignant. Mélanie Nunes et Pierre Dehorne sont allés à la rencontre de ces demandeurs d'emploi qui, pour certains, vous allez le voir, ont découvert une vocation.
Monsieur Vaziak, c'est Valérie.
C'est la dernière recrue de cette maison de retraite.
Allez, on y va.
À 48 ans, Valérie apprend depuis quelques semaines les bons gestes d'une soignante.
J'ai été prise en main par ma référente quand je suis arrivée, qui m'a montré comment il fallait faire pendant quelques jours. Elle m'a fait faire des toilettes avec elle, bien sûr.
Une nouvelle vie pour cette ancienne bénéficiaire du RSA.
Et c'est écouter aussi ce qu'eux, ils ont envie. Parce que bon, bah voilà, il y a certaines personnes, ils veulent que de l'eau sur le visage, d'autres c'est avec le savon, donc c'est, d'autres c'est que la crème. Donc on discute avec eux, on communique hein, quand même avec eux.
Je travaille bien.
Je travaille bien. Je vous adore. Oui, on s'aime bien tous les deux. Hein, monsieur Vaziak? Oui. Ouais.
Dans cet EHPAD, 7 soignants ont démissionné pendant la crise sanitaire.
Le meilleur moment de la journée, c'est le petit déjeuner.
Alors l'arrivée de Valérie a été vécue ici comme une bénédiction.
Allez, un petit coup de café.
Déjeuner, c'est dur, Marie.
Déjà, elle était très déterminée à vouloir travailler avec les personnes âgées. Donc ça, c'est très important parce que c'est pas facile tous les jours, moralement, plus que physiquement. Donc il faut vraiment vouloir travailler avec les personnes âgées.
Un médecin.
Et j'avoue que c'est une personne qui était pleine de qualité à ce niveau-là.
Cette mère de famille a passé 4 ans sans emploi.
Bonjour.
Ce travail, c'est une stabilité retrouvée.
Ça va?
Ça va? Ma fille a 11 ans, ça nous est arrivé une fois de partir en vacances. Bon, après, voilà, là maintenant je m'en donne les moyens. Donc je sais que ça va le faire, hein?
Se sentir utile auprès des plus fragiles. Voilà ce qui la motive désormais.
Vous avez un message?
Comment je peux le lire?
Car Valérie avait un tout autre métier auparavant. La voyance, la cartomancie, pendant des années.
Tout ça, c'était les outils de travail que j'avais en tant que voyante par téléphone, on va dire.
Elle se retrouve alors au RSA, avec seulement 800 euros mensuels. Aujourd'hui, elle en gagne 1300 par mois.
C'est la liberté. C'est tout bête, hein, mais ma fille, elle a envie de... Elle a envie d'un... Elle est folle de manga, donc elle a envie d'un manga, pas me dire, je peux pas lui acheter son manga à 11 euros. Là, c'est ça qui compte pour moi. Faire plaisir à ma fille.
Mais elle a pu également s'acheter quelque chose d'essentiel pour aller travailler.
C'est ma beauté. Je suis très contente de l'avoir, en tout cas. Ça fait... C'est bon d'avoir une voiture au bout de 4 ans.
Un nouveau départ pour Valérie et aussi pour ses autres bénéficiaires du RSA. Eux sont pour le moment en formation.
Donc on va faire que des prises en cuillère, c'est-à-dire par exemple...
Là, prendre en dessous.
En dessous, articulation du poignet, articulation du coude.
À 33 ans, Alexis n'a connu que des contrats précaires. Serveur, il a perdu son emploi suite à la crise et vit actuellement avec 300 euros une fois le loyer payé.
Donc vous lui mettez la serviette sous le bras pour ne pas mouiller. Et là, on peut commencer donc à lui savonner le bras, lui rincer et lui sécher.
Pour l'instant, je ne suis pas encore très à l'aise, forcément, parce que c'est le début. Mais ça va dans le sens de ce que j'attends, enfin de ce qui me plaît, en fait.
Dans le département, 350 postes de soignants dans des hôpitaux et EHPAD sont toujours vacants.
Je pense qu'il a des bonnes aptitudes naturelles au niveau de sa douceur. C'est quand même quelqu'un aussi qui est rigoureux.
Pourtant, Alexis n'avait jamais imaginé travailler dans ce secteur. C'est la pandémie qui lui a donné l'envie de venir grossir le rang des soignants.
Ça m'a vraiment motivé parce que ça se voit, en fait, il y a besoin de soignants, il y a besoin d'aide, c'est pas possible. Là, les hôpitaux sont saturés, les EHPAD, c'est un peu pareil. Il n'y a pas assez de personnel. Donc, et je suis encore assez jeune, je pense, pour pouvoir le faire.
Alexis a une ambition, décrocher son diplôme d'infirmier d'ici quelques années.
Question téléspectateur, professeur Antoine Flao, et si on laissait les anciens vaccinés sortir et dépenser, ce serait bon pour le moral et notre économie, non? Question de Georges dans le Var. C'est Joe Biden qui a dit d'ailleurs, quand on est vacciné, on peut sortir sans masque et sans distanciation sociale.
Alors quand on est vacciné, on est protégé contre les formes graves de la maladie, c'est clair. Il est clair qu'à terme, quand tout le monde sera vacciné, on pourra enlever le masque et vraiment revivre le plus possible comme avant. C'est ça l'objectif quand même. Maintenant, il serait quand même un peu injuste au jour d'aujourd'hui d'imaginer, je ne sais pas, que les plus de 75 ans puissent partir en croisière grâce à un passeport vaccinal sans autre forme de procès, alors qu'on laisserait sur le quai les jeunes qui, eux, se sont serré la ceinture, se sont confinés, ont parfois perdu leur emploi, ont été obligés, comme dans votre reportage, de réorienter leur carrière, tout ça pour sauvegarder les personnes âgées et qu'ils verraient partir sur des beaux paquebots de croisière. Je sais pas, je pense qu'il y a un petit peu de solidarité et d'éthique ici et que peut-être on ne peut pas libérer totalement, même pour l'économie, une partie de la population, alors que l'autre, ce n'est pas qu'elle a refusé la vaccination, c'est qu'elle n'y a pas simplement accès. Quand tout le monde aura accès à la vaccination, alors oui, on pourra tout à fait réfléchir à ce genre de solution.
Swazi Kemener, à l'instant, on apprend que Joe Biden annonce 200 millions d'injections dans ses 100 premiers jours. C'est Emmanuel Macron qui, hier, a fait son mea culpa sur la vaccination. Il a dit on a eu tort, on a manqué d'ambition, ça doit nous servir de leçon.
Oui, c'est un très fort mea culpa. Alors, mea culpa européen, hein, puisqu'il parle des achats de doses de vaccins par l'Europe et aussi de l'argent qui n'aurait pu être en plus investi par l'Europe pour les laboratoires. Et donc, on voit bien le regret d'Emmanuel Macron, qui est double. Hein. Il y a un regret, évidemment, parce qu'il se retrouve dans une situation où on se demande si on va être encore plus confiné ou pas, et puis la vaccination n'est pas suffisante pour pouvoir libérer les Français à court terme. Et on voit bien toute la difficulté qu'a l'exécutif d'avoir donné des horizons. On avait dit que 4-6 semaines, ça irait mieux. Là, on voit bien que c'est très compliqué, on est dans un brouillard total. Il y a ce côté-là, et puis il y a aussi son pari européen. Emmanuel Macron a été élu pour ça. Il a été élu parce qu'il défendait une vision de l'Europe, une vision volontariste. Et donc, il y avait cette réussite du plan de relance, c'est-à-dire que tout le monde s'était mis d'accord pour emprunter de l'argent en même temps, donc ça c'était très important, et en même moment, en fait, les Européens rataient les achats de vaccins. Pourquoi ? Parce que ce qu'il dit dans son interview hier soir à la télévision grecque, c'est le quoi qu'il en coûte qui a été d'ailleurs très apprécié par les Français sur les mesures économiques de soutien, aurait dû être mis par l'Europe dans les vaccins. Donc c'est un très gros regret, et il risque de le payer, évidemment, politiquement. D'ailleurs, on voit bien ce qui se passe en Allemagne aussi. Hein. C'est très compliqué pour Angela Merkel. Les questions ne se posent pas seulement en France. Hein. C'est une question européenne sur cette question.
Angela Merkel, qui passe pour quelqu'un de très posé, hein, qui a de la bouteille, 16 ans d'ancienneté, et qui en a été réduite à demander pardon aux Allemands parce qu'elle a voulu supprimer Pâques, et elle s'est rendue compte que ça ne passait pas. Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Professeur Bertrand Guidet, Roselyne Bachelot en oxygénation renforcée. On a appris ce matin qu'elle était en oxygénation renforcée. Ça veut dire quoi exactement ?
Je pense que ça veut dire qu'elle est sous un système d'oxygénation à haut débit nasal humidifié. C'est un système qui permet de délivrer des débits extrêmement importants. On peut monter jusqu'à 60 litres par minute et on peut enrichir l'air avec, même au maximum, que de l'oxygène. Donc, c'est un système d'oxygénation, je dirais, optimisé. C'est ce qu'on utilise largement dans les structures de soins intermédiaires qu'on appelle les unités de soins intensifs Covid. Moi, j'ai ouvert une unité d'ULI avec effectivement des prises en charge de malades avec ces systèmes. Alors, avec ce type de traitement, chez certains malades, ça passe, ils s'améliorent. Puis malheureusement, il y a un certain nombre de malades qui continuent à s'aggraver et qu'il va falloir mettre sous ventilation artificielle, donc les intuber. Donc, on va voir. J'espère qu'avec cette prise en charge, ça va suffire.
Et quand on est intubé, forcément, ça veut dire coma artificiel et on est parti pour au minimum 15 jours.
Voilà. Alors, on essaye d'intuber les malades maintenant le plus tard possible. Pour les malades qui sont dans ce secteur de réanimation, il y en a à peu près 1/2 qui est sous ventilation artificielle. Dans la première phase, dans la phase la plus aiguë, effectivement, les malades sont endormis, voire ils sont paralysés avec des curares. Et puis, quand les choses commencent à s'améliorer, bah, progressivement, on arrête ces médicaments pour endormir, ces médicaments sédatifs. Et puis, on procède à ce qu'on appelle le sevrage, c'est-à-dire progressivement, on regarde la capacité des malades à respirer tout seuls sans la machine, puis après, on retire effectivement la ventilation artificielle. Donc, il y a un peu deux phases. Il y a une phase aiguë où les malades sont endormis, voire mis sur le ventre, et puis il y a une phase de récupération et d'arrêt progressif de la machine.
Professeur Antoine Flahaut, le confinement allégé, donc j'imagine que c'est « dedans avec les miens, dehors citoyens », pour reprendre le slogan de Jean Castex. Donc le confinement allégé sera-t-il suffisant pour freiner l'épidémie ? Question de Marie-Paul en Saône-et-Loire.
Je crains que non. Je pense qu'on aura besoin mesure plus forte encore, parce que, encore une fois, ce nouveau variant qui a pris presque l'ensemble des parts de la circulation virale est beaucoup, beaucoup plus contagieux et plus virulent. Donc, il risque malheureusement de ne pas suffire ce confinement allégé.
Patrick Pelou, à quoi est due la situation ? En sommes-nous là parce que les gestes barrières ne sont pas suffisants ou parce qu'ils ne sont pas respectés ? Y aurait-il une lassitude des gens qui diraient « écoutez, on se retrouve hein. »
Ça pourrait être lassé, on est plus que lassé, ça. Oui, mais ça, on est tous d'accord, d'accord. Bon, non, mais il ne faut pas être désespéré. C'est-à-dire qu'en fait, là, il y a une évolution, c'est le virus qui donne le tempo. Moi, je trouve qu'il y a quand même une bonne observance et que nos concitoyens et nous tous, on respecte encore les gestes barrières. On va devoir les respecter encore longtemps, surtout si se préfigurent de nouveaux mutants qui arrivent. Donc ça, c'est vraiment important. Les jours heureux vont revenir, ça ne fait aucun doute. Le problème, c'est que là, on est face à... On vit un instant de l'histoire épidémiologique, de l'histoire des pandémies mondiales. Alors évidemment, par rapport à celle qu'on a connue, par exemple la grippe espagnole après la Première Guerre mondiale, vous n'aviez pas les chaînes d'infos, vous n'aviez pas tout ça. Donc là, il y a quelque chose d'angoissant en plus, parce qu'à chaque instant, vous avez plein d'informations et il faut faire le tri. Donc il faut savoir garder de la distance, attendre, mais c'est vrai que profiter de l'analyse scientifique pour avoir des anticipations et voir comment ça va évoluer, c'est ça qui est important. Garder les gestes barrières, c'est sûr, mais vous avez le virus qui joue sa partie. Nous, en fait, quand on les prend en charge au niveau du SAMU et des urgences, on ne sait pas et on les soigne tous de la même manière, que ce soit un variant britannique, on ne le sait pas. C'est très bien pour l'érudition épidémiologique. Nous, pour nous, tous les malades sont pareils. La seule chose qu'on voit à l'heure actuelle, pour l'Île-de-France et d'autres régions.
Ils savent où ils se sont contaminés, ce que vous prenez.
On arrive à savoir, en gros, comment ça s'est passé et à déterminer ce qui est pour nous le truc le plus important, le J0, le J1 du premier jour de la contamination, parce qu'après, on sait que les malades potentiellement risquent de s'aggraver à J7 et à J12. Donc, c'est ça à chaque fois que l'on cherche, mais on fait vraiment des techniques d'enquête très approfondie.
C'est entre J7 et J12 qu'il faut se surveiller en la technique ou on compte jusqu'à 20. Oui, ça, et si on est essoufflé, on téléphone au 15.
Voilà, vous êtes les bienvenus.
Voilà. Pas plus de 6 personnes dans l'espace public, mais 35 élèves dans une salle de classe. C'est une question de Marie-France dans l'Oise, qui est enseignante. Sois-y Kemener, est-ce que le corps professoral, est-ce que les enseignants ont l'impression désagréable d'être... en première ligne, maintenant, dans cette épidémie?
Oui, alors depuis le début, mais en même temps, on constate assez peu de droits de retrait et de profs qui refusent d'assurer les cours. Hein. Eux aussi font partie de ce mouvement pour l'éducation et ils veulent que les cours aient lieu. Alors après, il commence à y avoir des inquiétudes parce que certains profs, notamment en primaire, jugent que les classes ne sont pas assez vite fermées. Hein. Normalement, maintenant, ça ferme très très vite à cause du variant anglais, notamment. Et donc, il y a... une menace de grève en Île-de-France du syndicat principal du primaire le 6 avril prochain. On verra si elle aura lieu ou pas. Mais il commence à y avoir des questions. Il y avait une demande aussi très forte sur la vaccination à laquelle Emmanuel Macron a répondu lors de son déplacement à Valenciennes en expliquant que oui, il allait y avoir une priorité sans doute pour les professions en première ligne, mais simplement à partir de la mi-avril. Et certains politiques comme Anne Hidalgo demandent une vaccination immédiate, l'ouverture de la vaccination aux profs qui, effectivement, continuent à aller en classe face à des élèves alors, qui sont masqués. Mais vous avez déjà vu des enfants masqués, hein, c'est compliqué. Il y a toujours le masque bouge. Et puis, il y a aussi des profs qui ont beaucoup de difficultés à faire cours avec leur masque. Enfin, c'est des problématiques difficiles face, effectivement, à énormément d'élèves.
Les Français sont-ils prêts à accepter un nouveau confinement strict, même d'un mois seulement? On sait que le 29 janvier, il s'y était préparé, et là.
Oui. Moi, je crois, mais il faut qu'il y ait un deal. Les Français sont pas bêtes, vous savez. On est un peuple vaillant et courageux, plus que certains ne croient. Il faut qu'il y ait un deal, c'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre comme ça le vaccin, puisqu'on sait, nous tous ici, on le dit sans arrêt dans vos émissions, il faut vacciner massivement, comme a repris Anne Hidalgo. À mon avis, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Vous ne pourrez faire accepter un confinement que si en même temps on vaccine massivement. Avant de rentrer sur le plateau, j'ai une collègue qui travaille en EHPAD, d'accord, elle a 40 ans, mais elle a voulu aller se faire vacciner pour ne pas risquer de contaminer les pensionnaires. pensionnaire, on lui a refusé le vaccin. Ça, c'est pas normal. Vous voyez, c'est quelque chose qui est pas normal. Les gens qui veulent se faire vacciner, il faut vacciner massivement. Et ça, moi dont acte des auto-reproches du président de la République sur la vaccination. Mais en même temps, quand d'un coup la France vote contre à l'OMC le fait que le vaccin doit être au patrimoine de l'humanité, on se pose des questions sur la logique politique de notre pays.
Professeur Bertrand Guidet, les Franciliens sont-ils plus irresponsables que le reste de la population ?
Non, c'est un problème de densité de population, c'est un problème de mobilité. Donc non, je ne pense pas du tout qu'ils soient moins responsables que les gens dans d'autres départements. Les opportunités de contamination sont beaucoup plus importantes dans les villes à forte densité que dans les campagnes. Donc je ne dirais pas ça. Alors après, il y a des conditions spécifiques liées à la précarité sociale. Hein. C'est sûr que quand on est dans 93 à 8 dans un appartement de 30 mètres carrés, eh ben, c'est compliqué. Et donc effectivement, et ça va dans le sens de ce que disait Antoine Flahaut, il faut favoriser le fait que les gens puissent sortir. Maintenant, il va commencer à faire un peu meilleur. Ces gens qui sont très confinés à plusieurs dans des petits appartements, ils doivent pouvoir sortir parce que c'est sûr qu'ils se contaminent chez eux.
Professeur Même Flahaut, dans le cadre de la ville, sur ces différences territoriales, en revanche, il apparaît clairement que l'Ouest est beaucoup moins touché que l'Est. Hein, des départements comme le Finistère ou les Pyrénées-Atlantiques sont très peu touchés par l'épidémie, comme s'il y avait un effet océan sur cette épidémie.
Ah. Oui, depuis le début de la pandémie, hein, la façade atlantique a été moins touchée que l'Est, le Grand Est, la région Île-de-France, maintenant la région Rhône-Alpes et aussi la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc tout l'Est a été plus touché. On a des hypothèses, y compris de pollution atmosphérique qui auraient pu jouer un rôle. Les côtes ouest de la France sont plus balayées par des vents qui diminuent la pollution, et la pollution est un des facteurs aggravant la pandémie. Donc c'est possible.
Professeur Bertrand Guidet, a-t-on déjà commencé à trier les patients à l'hôpital? Et si vous l'aviez fait, pourriez-vous nous le dire en toute honnêteté ici?
Non, ce terme de tri ne me plaît pas, parce que c'est un terme qui est utilisé par les militaires sur le champ de bataille. C'est-à-dire qu'on a affaire à un blessé, on pense que ce blessé, il va de toute façon mourir, donc on le laisse sur le champ de bataille pour prendre en charge les soldats qui sont blessés, mais dont on pense qu'ils peuvent être améliorés. Non, le terme de tri n'est pas bon. Moi, ce que je dis, c'est le bon malade dans la bonne structure, et ça, il y a la priorisation de l'accès. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un certain nombre de malades qu'on ne va pas admettre en réanimation. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas les admettre, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas les admettre, c'est parce que réellement, on pense, et on a maintenant des arguments forts pour penser, qu'ils ne vont pas bénéficier de la réanimation. Maintenant, quand on ne les admet pas en réanimation, on continue à les prendre en charge. C'est-à-dire qu'ils sont admis à l'hôpital, dans un service classique, voire dans une unité de soins palliatifs, mais ils ne sont pas laissés à eux-mêmes. Donc, un des gros reproches qui a été fait au printemps dernier, c'est que, singulièrement dans un certain nombre de maisons de retraite, du fait des problèmes de personnel, il n'y avait pas d'accompagnement de fin de vie. Donc, c'est vrai que si on dit cette personne ne va pas bénéficier de la réanimation, il faut évidemment la prendre en charge. Et évidemment qu'il y ait des structures adaptées pour prendre en charge ces malades. Et donc nous, on travaille en collaboration avec nos collègues gériatres, et il y a des malades qui ne sont pas prêts en réanimation, mais qui ont de l'oxygène, même de l'oxygène à haut débit, comme Roselyne Bachelot. C'est tout à fait possible d'organiser ça en salle.
Allez, 10 secondes. Où sont les vaccins, se demande Philippe dans l'Aude. En Angleterre ? Sois-y, Kemeler, c'est ce que disent les Européens.
Oui, mais c'est tout le problème, effectivement, de disparité entre livraison en Angleterre et livraison en Europe. Et ça va rester longtemps, cette
différence. Eh bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Je rappelle que C'est dans l'air est disponible en podcast audio gratuitement sur toutes les plateformes. Vous restez sur France 5 à suivre. C'est à vous.